Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. African Parks, l'ONG qui veut sauver la nature africaine contre les Africains. Fondée par un milliardaire hollandais installé en Afrique du Sud, African Parks gère 23 parcs naturels dans 13 pays. Mon invité a enquêté sur cette ONG, plus exactement sur son côté obscur. Olivier Van Biemen est journaliste d'investigation indépendant. Il publie aux éditions Rue de l'Échiquier un ouvrage intitulé « Au nom de la nature, enquête sur les pratiques néocolonialistes de l'ONG African Parks ». Bonjour Olivier Van Biemen. Alors, 23 parcs dans 13 pays, ça en fait un leader mondial, non ?
Oui, c'est le leader africain dans ce domaine de la gestion de la nature. Et ils ont même des ambitions de devenir leader au monde, tout en restant en Afrique.
Oui, D'accord. Oui. OK. Alors, leur chiffre d'affaires, c'est près de plus de 120 millions d'euros pour gérer à peu près 20 millions d'hectares, 5000 salariés. Grosse entreprise.
Oui, c'est vraiment c'est très ambitieux. Ils gèrent maintenant 23 parcs. En 2030, ça devrait être déjà 30. Mais j'ai vu des documents internes comme quoi ça pourrait être déjà 40, voire 50 parcs.
Donc, toujours en Afrique ?
Oui.
D'accord.
Il ne manque pas d'ambition.
Il va falloir aller chercher les dirigeants des pays africains là, pour ouvrir des portes. Alors, ça a été fondé par un milliardaire hollandais. C'était un amoureux de la nature, mais un chasseur aussi.
Oui, tout à fait. Il s'appelle Paul Venter van Vlissingen. Ouais. Avec un prince néerlandais, il a chassé au grand gibier en Afrique. Il a tué des éléphants. Un peu vers la fin de sa vie, c'était un businessman aussi qui était surtout dans les combustibles fossiles. Ouais. Donc, vers la fin de sa vie, il voulait plutôt être...
Réparer la nature.
Oui, souvenu par comme un philanthrope. Oui. Donc, il s'est consacré à la nature.
D'accord. Oui. Vous avez fait 4 ans d'enquête, hein, 300 entretiens, je crois, dans plusieurs pays africains. Vous avez vécu une arrestation. Pour espionnage au Bénin. Mais espionnage de quoi ?
Ben, en fait, j'étais dans un parc au nord, près d'un parc au nord du Bénin, et j'avais pas d'accréditation de presse, parce que sinon, j'avais jamais eu le droit d'y aller pour enquêter.
D'accord.
Et donc, du coup, ils ont contrôlé mon identité, tout était en ordre, mais on m'a pas libéré, avec une consoeur béninoise d'ailleurs. Donc, on a passé 4 jours en détention. On a presque dû comparaître devant un tribunal de terrorisme.
Ah, carrément. C'était bien un parc d'African Parks. Hein.
Oui.
D'accord.
Oui. Alors. Mais c'est la police béninoise qui m'a arrêté. Hein. C'était pas African Parks qui m'a arrêté, mais quand même, ça montre un peu comme quoi c'est dur de faire une enquête sur cette organisation.
Donc, c'est pas aux autorités politiques béninoises qu'il fallait demander l'autorisation, mais à Johannesburg, où est le siège de African Parks.
Oui,
c'est dire le pouvoir quand même qu'ils ont.
Oui, pour entrer au parc, il faut en fait, ce sont des parcs nationaux pour la plupart d'entre eux, mais il faut l'autorisation de Johannesburg pour y entrer. Donc, pour certains critiques d'African Parks, ils parlent d'un état dans l'état, parce que African Parks reprend des pouvoirs régaliens des états africains avec leur consentement.
Ouais. Ouais. C'est ce qui pose problème. Dans votre livre, vous avez donc évoqué un certain nombre de faits graves. Là, les faits graves sont reconnus par African Parks, notamment dans un parc Congo-Brazza, où il y a eu des viols et de la torture par les gardes du parc, donc les salariés d'African Park. C'est bien ça ?
Tout à fait, oui. Il y avait eu un reportage dans le tabloïd journal britannique Daily Mail. Et là, ils ont découvert que ce genre de pratique est arrivé au Congo-Brazzaville. Et pour la première fois maintenant, African Parks a vraiment reconnu que de telles pratiques ont lieu. Par contre, ils n'ont pas rendu public le rapport fait par des avocats indépendants.
Donc, mais les faits sont graves quand même.
Les faits sont très graves. Ah ouais. Oui.
Ça, vous le soupçonniez dans votre enquête.
Bon, moi, j'ai parlé à beaucoup de témoins, ouais. Des éco-gardes que des victimes présumées qui m'ont parlé aussi de ces pratiques, de ce genre de pratiques-là. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas surpris du
T'entends
tout.
Eux-mêmes reconnaissent.
Oui, finalement. Ouais.
Ouais. Autre pratique, déplacement de population, c'est ça ?
Au début, en Éthiopie, ils ont repris un parc où il avait une entente avec le gouvernement éthiopien, que c'était au gouvernement éthiopien de déplacer les gens. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui le font, mais c'était le gouvernement qui a fait cette affaire-là. Et en général, ça, c'est pas... il y a, par exemple, aussi un parc où les gens sont permis de vivre. Donc,
Sont toujours vécus.
Oui, bien sûr. Mais le déplacement des populations, ça joue et c'est un problème très important. Mais avec African Parks, c'était surtout au début dans ce parc éthiopien. Ouais.
Il faut attendre votre enquête pour que ces informations sortent, alors qu'African Parks reçoit des subventions de l'Union européenne. African Parks est labellisé, soutenu, supporté par des grands noms, Taylor Swift, le prince Harry, etc.
Oui, l'Union européenne semble être un grand admirateur du travail d'African Parks. Ils ont contribué plus de 150 millions d'euros au cours des années. Dans le monde de la conservation de la nature, c'est une somme vraiment énorme. Donc, je pense que le secret d'African Parks, en quelque sorte, c'est qu'ils ont une belle narrative, ils ont une belle histoire en provenance d'un continent où souvent il y a des histoires pas si belles qui sortent. Donc
ils y projettent leur fantasme.
Oui, tout à fait.
On est d'accord.
Oui, et tout
d'une
le monde
a... nature unifiée qui n'a pas été touchée par
sans
l'homme.
Hommes,
voilà.
Alors que
les hommes ont toujours été là, mais bon.
Oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, les gens ont ils aiment croire à ces jolies histoires. Je pense que c'est pour cela qu'ils sont, par exemple, si populaires parmi ces stars et parmi les subventionneurs publics, les bailleurs de fonds publics.
Pour autant, vous dites que tous les pays africains n'ouvrent pas leurs portes à African Parks.
C'est vrai.
Est-ce que c'est dû au fait que African Parks, par exemple, ne redistribue pas l'argent qui est gagné par ces parcs-là?
Oui, c'est un élément important. Ce qui se passe, il y a des pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Sénégal aussi, qui ont refusé de donner...
En gestion.
Oui, des parcs à African Parks. Mm-hmm. En général, ce sont des pays qui, sur un index de bonne gouvernance, sont plutôt dans la bonne moitié qu'en bas. Donc, ce sont des pays qui sont mieux gérés que d'autres, qui refusent parce qu'ils considèrent que c'est une atteinte à leur souveraineté. Et c'est vrai qu'il y a aussi la question de l'argent. African Parks exige que tous les revenus d'un parc vont à African Parks. Ils disent qu'ils le réinvestissent dans le parc.
Et c'est vrai ou pas ?
Je pense que c'est vrai, effectivement. Ouais. J'ai pas la preuve du contraire. Ouais. Mais pour certains gouvernements, ils aiment bien que les revenus qui vont à leur parc, au moins, ils en gardent une partie eux-mêmes. Donc, ça peut poser problème aussi.
Donc c'est vrai qu'ils consacrent cet argent au parc. Par contre, vous révélez qu'il y a des salaires qui sont mirobolants. La directrice de communication d'African Park, c'est un quart de million de dollars, c'est ça,
son
salaire ?
Oui, l'ancienne, je ne sais pas l'actuelle, mais l'ancienne, c'était... Le PDG de African Parks m'a même pas voulu dire son salaire. Souvent, dans nos pays, ce sont des données publiques. Oui. En Afrique du Sud, apparemment, on a le droit de garder ça secret. Parce qu'ils sont basés en Afrique du Sud maintenant. Au début, ils étaient carrément aux Pays-Bas, dans un château médiéval de ce Paul Fentner van Vlissingen. Maintenant, ils sont quand même en Afrique, à Johannesburg, dans la partie la plus riche de l'Afrique.
Est-ce qu'au moins ça sert aux animaux ? Est-ce que ça préserve les animaux ?
Bonne question. Au début, je me suis dit qu'au moins, ce sont les animaux, en fait, la biodiversité qui en profite. Mais même, il y a des sources qui m'ont dit, là, il faut bien regarder aussi. Et j'ai fait mon enquête moi-même. Et même souvent, les résultats que donne African Park sont très exagérés. Parfois même dans ce même parc à Odzala, où il y a les révélations sur la torture.
Au Congo-Brazza.
Oui, oui. Là,
il y aurait une perte de diversité ?
Oui, selon les chiffres d'African Parks même, il y avait par exemple près de 10 000 éléphants forestiers quand ils ont repris la gestion. Il en resterait plus de 5 à 7 000 maintenant.
Donc, ah ouais, entre 50 et 30 % de pertes.
Oui, entre, oui, oui. Ouais. Oui
et vous dites aussi qu'ils ont déplacé des animaux d'un parc à un autre, c'est ça ?
Ça, c'est un de leurs grands trucs, en fait. Les translocations, ils appellent ça. Et les bailleurs de fonds adorent ça. Il y a eu par exemple un déplacement de 500 éléphants au sein du Malawi. Et pour les bailleurs de fonds, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Il y a beaucoup d'organisations qui écrivent des rapports et qui font des études avant de faire quelque chose. Mais African Parks, ils font des choses et les bailleurs de fonds, souvent des milliardaires, des businessmen américains ou suisses, ils aiment bien ce qu'ils considèrent comme une efficacité.
Une dernière question à réponse rapide. Est-ce que les gouvernants africains n'ont pas le sentiment aujourd'hui qu'ils seraient capables eux-mêmes de gouverner ? Est-ce qu'il y a un débat là-dessus ?
Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que au début, l'idée était qu'un mandat était pour 25 ans, 20 ans, mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que African Parks ne veut pas vraiment rendre les parcs au gouvernement africain. Donc, ils veulent renégocier un second mandat. On a l'impression qu'ils veulent rester là.
Ils veulent rien lâcher.
Pour toujours.
Merci beaucoup, Olivier Van Biemen, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.